dit, mais le terme de pédocriminalité nous paraît plus juste en sciences sociales, parce que finalement, pédophilie, étymologiquement parlant, ça veut dire aimer les enfants, donc c'est un peu compliqué quand on travaille sur des crimes, enfin des abus sexuels d'adultes sur des enfants. Donc je pense que le terme de pédocriminalité est effectivement un terme qui s'impose aujourd'hui de plus en plus, non seulement dans les sciences sociales, mais aussi dans les médias, et je pense que c'est important. Et donc l'idée, je dirais, c'était effectivement de travailler sur un sujet, un angle mort de la recherche, parce que finalement, on a beaucoup travaillé sur l'enfance. Enfin, moi, je suis spécialiste de l'histoire de l'enfance au Moyen-Âge. Mais on a beaucoup travaillé sur l'enfance heureuse, on va dire, et beaucoup moins sur l'enfance maltraitée. Et bon, voilà, le 21e siècle n'a pas le monopole de la violence sexuelle à l'égard des enfants. Il y en avait aussi à l'époque médiévale. Alors j'ai dépouillé donc ces archives, et en gros, j'ai pu, c'est entre 1343 et 1474, et donc j'ai trouvé 130 cas d'enfants violés, autant de petites filles que de petits garçons. D'où l'intérêt, évidemment, de faire du genre, hein, d'essayer de genrer les choses. Et alors, évidemment, ce chiffre-là, ça fait à peu près un viol d'enfant par an, ce qui, évidemment, dans une ville de 35-40 000 habitants, ne veut strictement rien dire, parce qu'on sait très bien que voilà, les chiffres noirs pour ce genre de délit, que ce soit les viols de femmes ou les viols d'enfants, sont très importants. Et ça n'a aucune prétention à dire des chiffres réels. Ce n'est pas la réalité, c'est uniquement, évidemment, les affaires qui sont arrivées devant le Podesta, qui est le juge suprême de la ville de Bologne. Et donc, c'est uniquement ces cas-là. Alors, la question que je me suis posée, finalement, en écrivant, au bout d'un moment, c'est « Mais pourquoi ce sujet ?» Parce que, finalement, c'est la question que peut-être que les auditeurs se posent. Pourquoi choisir un tel sujet aussi atroce, finalement ? Alors, je crois que l'idée est née, finalement, en 2013, lorsque je manifestais avec ma fille de 15 ans. C'est ce que j'explique dans l'avant-propos. Je manifeste, donc, pour défendre le mariage pour tous, voilà, dans les manifs de 2013. Et il y a au moins deux événements qui sont assez choquants. La première, donc, je manifeste avec elle, on arrive du côté de Montparnasse, et à ce moment-là, il y a une banderole tenue par des gens du Front National, ou des intégristes catholiques, et sur cette banderole est marqué « Aujourd'hui avec des hommes, et demain, pourquoi pas avec des chèvres ». Bon, premier élément. Deuxième événement, les micro-trottoirs qui se passaient dans l'émission quotidien, dans l'émission de Yann Barthès. Et parmi ces micro-trottoirs, on interviewait une personne donc, qui défendait au contraire, évidemment, qui était contre le mariage pour tous, bien évidemment. Et on l'interrogeait, on lui demandait « Mais pourquoi vous êtes contre ?» Et elle expliquait en toute honnêteté, en toute bonne foi. Elle disait « Ben voilà, c'est simple. Il y a un monsieur, il y a deux monsieur qui vivent ensemble, ils ont un enfant. Il y a un monsieur qui part au travail, l'autre reste à la maison. » Donc déjà un schéma, évidemment, très quand même hétéronormé et très... on va dire très normé, et l'autre qui reste à la maison, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il viole l'enfant avec lequel il reste. Donc la question, c'était, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans la tête de mes contemporains, il y a une confusion aussi importante entre des choses qui n'ont strictement rien à voir ensemble, c'est-à-dire homosexualité, pédophilie, zoophilie ? Donc c'est une vraie question. Pourquoi reste-t-il encore c'est des gens qui croient, effectivement, qu'il y a un rapport entre tout ça ? Entre donc un crime violent d'un adulte sur un enfant, entre des relations entre un homme et un animal, et puis entre des relations d'amour, qu'on pourrait appeler plutôt homo-affectivité plutôt qu'homosexualité, qui attire l'attention sur le sexe plus que sur l'amour. C'est ce que les Anglais appellent « the same-sex relations ». Je trouve que c'est un terme qui est beaucoup plus juste, parce qu'évidemment, ça montre l'homo-affectivité que l'homosexualité. Donc la question était là. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, et finalement, qui confondent ces trois notions ? Et donc, le médiéviste que je suis va retourner aux mots précis. Et effectivement, pendant très longtemps, jusqu'au moins au XIXe siècle, il y a un seul mot qui est là pour désigner ces trois crimes, c'est le vice sodomite, ou le péché sodomite, ou encore le crime contre nature. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, les historiens de l'homosexualité en particulier ont beaucoup travaillé sur ce vice sodomite, mais très souvent en ignorant, en confondant eux-mêmes, finalement, d'une certaine manière, ces deux choses-là, au moins la pédophilie et l'homosexualité. Et donc, mon idée, c'était véritablement de retourner aux mots précis. Et dans les archives de Bologne, il se trouve que la quasi-totalité des cas de vice sodomite sont des cas de pédocriminalité, ne sont pas des cas d'homosexualité. Et parce que finalement, à Bologne, on s'en fiche un petit peu, finalement. On ne pourchasse pas les homosexuels. Enfin bon, il vaut mieux pas se montrer en tant qu'homosexuel à la fin du Moyen-Âge, c'est sûr. Hein, c'est effectivement un crime qui est condamné. Enfin, c'est considéré comme un crime, en tout cas. Mais globalement, bon, voilà, à moins que ça fasse scandale, on ne chasse pas trop les homosexuels, contrairement à des villes comme Florence ou Luc ou Venise à la même époque, où il y a des magistratures qui sont créées pour chasser les sodomites. Donc c'est les sodomites homosexuels. Donc là, c'est une exception. Et donc ce qui m'a intéressé, voilà, c'est de travailler là-dessus et d'essayer de montrer quoi ? De montrer qui sont les victimes, qui sont les coupables, de montrer évidemment l'aspect, comment est décrit cet acte abominable dans les sources, hein, et puis de voir évidemment les châtiments, les crimes, comment a été châtié ce crime. Alors ce qu'on peut dire globalement pour résumer, c'est qu'il y a une différence énorme évidemment entre les viols des garçons et les viols de filles, parce que, comme je viens de l'expliquer, le vice sodomite est un crime terrible, enfin au Moyen-Âge, parce qu'il est un crime contre nature. Au Moyen-Âge, l'Église dit clairement pas de relations sexuelles en dehors du mariage, et évidemment, le mariage, c'est un couple hétérosexuel et pas homosexuel. Donc progressivement, surtout à partir du XIIIe, XIVe siècle, l'Église condamne de plus en plus toute forme de relations, on va dire, sexuelles illicites. Et donc, parmi ces relations sexuelles illicites, évidemment, le crime contre nature, c'est-à-dire une pénétration qui n'est pas vaginale, une pénétration anale en l'occurrence, est tout à fait condamnée, comme l'est la masturbation ou autre, enfin, tout ce qui n'est pas à des fins procréatives, puisque évidemment, il n'y a pas d'autres, pour l'Église, il n'y a pas de relations sexuelles sans fins procréatives. Voilà. Et donc ce crime est condamné, et donc ça veut dire clairement que les viols de petites filles sont beaucoup moins condamnés que les viols de garçons. C'est très net. Lorsque un prédateur, enfin un homme, donc viole une petite fille, en général, alors il peut évidemment, ça peut aller jusqu'à la peine capitale, hein, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt des peines pécuniaires, des peines corporelles, des peines infamantes. C'est souvent, parfois, le bannissement. Alors souvent, il faut juste expliquer que ces gens-là sont souvent condamnés par contumace, hein, in absentia. C'est-à-dire qu'évidemment, après un crime comme ça, on ne reste pas et on a tout intérêt à se cacher. Donc les sentences sont souvent prononcées effectivement par contumace. Mais lorsque les gens sont vraiment condamnés, les viols de filles, en général, voilà, sont condamnés beaucoup plus légèrement. Et puis il y a cette chose qui nous paraît atroce aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le mariage réparateur ou le mariage subséquent. C'est-à-dire que le violeur peut négocier avec la famille de la victime la possibilité d'épouser la fille qu'il a violée. Ce qui, évidemment, bon, rien ne nous dit ensuite. Effectivement, on n'a pas de source pour savoir comment pouvait se passer cette vie conjugale absolument atroce, commençant par un viol. Mais en tout cas, ça existe. Hein, et c'est quelque chose, évidemment, moi j'ai deux ou trois cas de prédateurs, donc de violeurs de petites filles, hein, de 10-11 ans parfois, et qui ont épousé, la dénonciation auprès de la justice de la commune, et là aussi pour faire pression sur la partie adverse. Hein, et c'est un moyen parfois de s'entendre en infrajudiciaire, de s'entendre avec la partie adverse. Donc ça c'est pour les viols des petites filles. Les viols des petits garçons, ben, en général, c'est souvent les coupables sont beaucoup plus des étrangers à la ville de Bologne, alors qu'au contraire, le violeur de petites filles est plutôt un homme de Bologne, hein, ayant parfois pignon sur rue. Enfin, on a des gens, des artisans, même parfois des notables. Tandis que les violeurs de garçons sont plutôt des gens venant de l'extérieur. Et puis, il y a toujours cette grosse différence aussi dans le récidivisme. C'est-à-dire qu'on a pratiquement, je dirais, un violeur de filles pour une fille, alors qu'on a souvent un violeur de garçons pour plusieurs garçons. Hein. Comme si, finalement, il y avait une sorte d'essence, hein, c'est un peu ce que j'essaye de démontrer dans un chapitre du livre, une sorte d'essence d'identité sodomite ou pédocriminelle qui était en train de se mettre en place à la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement... On peut dire qu'un violeur de fille, c'est quelqu'un qui a commis un viol sur une fille, alors qu'un violeur de garçon, c'est vraiment un violeur de garçon. C'est-à-dire qu'il a une sorte d'identité. Hein, et il devient une sorte de menace pour la ville. Et on a, alors ça, on peut le voir très bien à partir du vocabulaire qui est utilisé par les notaires. Hein. J'ai beaucoup été attentif à ça. Alors c'est un vocabulaire très stéréotypé. C'est-à-dire que le coupable est toujours présenté comme homme de mauvaise renommée, etc., etc. Bon, ça, c'est quand on a commis un crime, on va dire, un peu relativement important, on a cette qualification. Et puis ensuite, on voit bien comment on qualifie, on montre l'intentionnalité de l'acte. Et le notaire utilise là des formules juridiques qui sont poussées par le diable, n'ayant plus Dieu devant les yeux, mais le diable, etc. Et toutes ces phrases extrêmement fortes sur un plan juridique, on les retrouve uniquement dans les crimes contre les garçons. On voit bien que c'est beaucoup plus grave. Voilà. Donc ça a été un peu ça l'idée, hein, c'était de partir de cette opposition de genre, et finalement, on ne peut pas dire qu'il existe une catégorie de crimes pédophiles à la fin du Moyen-Âge, hein, mais on peut dire qu'il existe deux catégories, l'une donc, qui est le crime sodomite, et l'autre qui est le viol, et pour le juge, en fait, ben, navigue entre ces deux catégories, c'est-à-dire que les termes qui sont utilisés, par exemple, pour dire le viol d'une petite fille, c'est « il l'a connu charnellement », contre sa volonté, par violence et contre sa volonté. C'est exactement la même phrase qu'on retrouvera pour le viol de femmes adultes. Voilà. Tandis que de l'autre côté, hein, c'est tout à fait le vocabulaire de la sodomie qui est utilisé, hein, et avec en général un langage beaucoup plus cru, beaucoup plus de descriptions en particulier. Et voilà, le chapitre qui, par exemple, montre les conséquences physiques, hein, psychologiques, quand on peut les obtenir, mais c'est plutôt rare, mais en tout cas physiques, hein, sur les petits corps en lambeaux, sur les petits corps déchirés des enfants, bon, c'est évidemment pas le plus facile à écrire. Et je pense que peut-être que je peux juste aussi dire le problème de l'écriture de ça, parce que je pense que quand on écrit sur des choses aussi difficiles, on doit se poser la question, l'historien en tout cas doit se poser la question, ou le chercheur, comment restituer ce qu'il a vu. Il a vu des choses souvent horribles, et les moments dans les archives de Bologne, il m'arrivait de lever la tête et de sortir, hein, un petit peu me balader et rentrer à nouveau, parce que je me disais, ben, c'est mon métier, il faut que je continue à faire mon métier, mais c'est pas facile parfois. Et donc il faut essayer de naviguer entre, enfin éviter on va dire deux écueils, à la fois l'euphéminisation, c'est-à-dire le fait de rendre les choses, d'expurger les choses, de ne pas les rendre telles que parce que c'est difficile de décrire ça. Et puis l'autre écueil, c'est le voyeurisme, c'est-à-dire effectivement de décrire sans commenter. Hein. Et ça, pour moi, c'est du voyeurisme, c'est-à-dire que on arrive là à montrer des choses horribles sans que l'historien prenne position. Donc c'est très compliqué quand on est un chercheur et qu'on essaye finalement d'être objectif. Et quand on travaille sur des sujets aussi graves, eh bien, voilà, de naviguer entre ces deux écueils. Et l'écriture du livre n'est pas facile. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que ça nous oblige aussi en tant qu'historiens, nous, à nous interroger sur le pourquoi d'un tel sujet. Voilà. Alors j'espère que ce livre est utile. Hein. J'espère qu'il est utile. Je finis mon avant-propos en disant, au moins j'espère que... Alors c'est peut-être pas les mêmes qui liront effectivement le livre, ce qui est un peu dommage. Mais j'espère qu'au moins ce livre servira à ce que les gens qui manifestaient contre le mariage pour tous en 2013, peut-être que dans, ou leurs enfants, leurs petits-enfants, peut-être en 2030, 2050, ne confondront plus ces catégories. Hein, et si ce livre peut aider au moins à ça, parce que finalement, l'historien est aussi un acteur politique, enfin, quelqu'un qui est dans sa cité, qui est donc dans son monde, dans son présent. Hein, et c'est bien aussi parce que voilà, le sujet est très présent. Hein, alors, on n'a pas parlé, mais on peut parler aussi évidemment de ce livre qui... Alors, peut-être qu'il va en décevoir certains, parce qu'il n'y a pas de clercs dedans. Hein. C'est pas du tout mes pédophiles sont des laïcs, puisque, en fait, cette justice, c'est la justice civile. Et il se trouve qu'au Moyen-Âge, et c'est aussi une des explications hein, de ce long secret dans l'Église, c'est que vous savez qu'à l'époque médiévale, jusqu'au moins, enfin, en tout cas au moins la Révolution française, les clercs bénéficient du fort ecclésiastique. C'est-à-dire que lorsqu'ils commettent un crime, ils ne sont pas jugés par la justice civile, mais ils sont jugés par la justice ecclésiastique, ce qu'on appelle les officialités, la justice de l'évêque, et qui est une justice beaucoup plus clémente, hein, qui n'a pas le droit de verser le sang, etc. Enfin bon, qui n'a pas, voilà. Donc, on voit bien que très tôt, les gens d'église ont échappé très tôt à la justice, on va dire, normale. Hein, voilà. Et donc, je n'ai pas ces gens-là. Hein, donc, c'est plutôt l'originalité aussi de ce livre, hein, c'est que, contrairement à beaucoup d'ouvrages hein, qui commencent à paraître aujourd'hui, et tant mieux, hein, sur la pédocriminalité dans l'Église hein, en particulier, bon, on peut penser au rapport Sauvé qui date du début du mois d'octobre, hein, qui montrait, hein, je rappelle, que 300 000, entre 1950 et 2000, 300 000 enfants auraient été violés par des gens d'Église. Hein, et donc ça, c'est intéressant aussi de comparer avec ce qui se passe dans la société laïque, en particulier, évidemment, le sexe de l'enfant violé est très différent, puisque hein, aujourd'hui, on nous montre qu'à peu près 80 ou 85% des enfants violés par les gens d'église sont plutôt des garçons, évidemment, puisque là, on est dans un milieu plutôt, on va dire, masculin. Tandis que dans les époques anciennes, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, alors, moi, j'ai, entre guillemets, la chance, on va dire, d'avoir des archives qui m'ont permis de faire du genre, c'est-à-dire qui m'ont permis de voir comment la différence entre les viols de garçons et les viols de filles. Mais la plupart des collègues qui ont travaillé sur le 17e, 18e, 19e siècle ont montré que 85% des enfants violés étaient des petites filles, dans la société civile. Donc on voit bien un écart très très important entre si on compare justement cette pédocriminalité, on va dire, de laïque et cette pédocriminalité de clerc. Donc j'espère que cet ouvrage aussi voilà, servira aussi à avoir un point de comparaison avec pas mal d'ouvrages, et les historiens aujourd'hui travaillent beaucoup sur ces... Enfin, commencent à travailler. On voit bien que, si on regarde les 4-5 dernières années, hein, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en France, des historiens commencent à travailler sur des sujets comme ça, qui sont évidemment des sujets très, voilà, très, très douloureux, mais Bon, je pense que voilà, l'historien, comme le sociologue et l'anthropologue, ont des choses à dire là-dessus.
Alors, moi, j'ai lu attentivement votre livre, donc je peux témoigner du fait qu'il n'y a pas de voyeurisme. C'est peut être décevant, mais c'est plutôt accablant, en fait. Alors, ce qui est aussi très, très marquant, c'est le traitement différent entre les sexes. Donc ça, c'est vraiment très frappant. J'ai reçu ici Frédéric Martel pour Sodoma. Oui. Et c'est extraordinaire, c'est une espèce de somme absolument extraordinaire. Et donc, on a aussi on a un syntagme là sur Bologne, c'est-à-dire une photo prise dans un laps de temps, mais on a aussi un paradigme qui s'ouvre, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où les rapports entre les hommes et les femmes sont différents. Et donc on pense à d'autres endroits, hein, sur la réparation par exemple, après le viol d'une fille par le mariage, ça existe encore peut-être sur la moitié de la planète pratiquement.
Bien sûr. Mmh.
Et donc ça fait penser, quoi, et c'est très très frappant, quoi. Enfin, c'est très parlant sur ce qu'on appelle le genre aujourd'hui, sur le traitement extrêmement différent entre les garçons et les filles. Et on a cette condamnation biblique sur la sodomie qui est en filigrane derrière tout le temps, qui revient. Et la question de l'homosexualité est très, très traitée très différemment. Donc,
bien sûr.
Alors là, après, on peut imaginer effectivement une comparaison avec Florence à la même époque, puisqu'on a des artistes quand même qui sont très appréciés et qui sont des homosexuels notoires. Et ça se passe d'une certaine façon.
Oui.
Mais oui, c'est un livre qui, maintenant qu'il est fait, apparaît nécessaire, quoi. C'est vraiment, il est tout à fait en face avec le moment actuel, avec les revendications actuelles. Il apporte du matériel au débat.
J'espère.
Je pense, hein, je pense qu'il est effectivement totalement en face avec ce qu'on vit aujourd'hui, enfin ce qu'on au jour le jour, quoi. Enfin, c'est le pour un travail qui s'est fait sur le long terme, il rejoint l'actualité la plus immédiate.
Oui, parce que finalement, quand j'ai commencé à travailler, il y a bien une dizaine d'années, ou 8-10 ans, j'avais l'impression j'ai essayé dans l'avant-propos d'expliquer pourquoi. Donc, et j'ai fait pour moi, c'est 2013. Mais vous voyez, 2013, on était au moment où finalement le problème du genre se posait. D'ailleurs, ce terme de genre est intéressant parce que moi, j'ai fait un ouvrage, l'ouvrage précédent, donc c'était Hommes et femmes, une histoire du genre au Moyen-Âge. Donc, c'était un petit manuel, c'était issu de mes cours de L3. Et c'était intéressant parce que le mot genre pouvait, en 2013 encore, 2012-2013, on pouvait le voir apparaître sur les couvertures assez facilement. Là, j'étais très heureux et je voudrais remercier les PUF d'avoir accepté de faire apparaître le mot genre sur la couverture parce que depuis 2013 et ces grandes manifs anti-mariage pour tous, etc., on a vu combien les politiques publiques étaient en retrait par rapport au mot genre. On remplace le mot genre par parité, égalité homme-femme, qui n'a rien à voir, hein, comme si finalement le mot genre faisait peur, hein, d'une certaine manière. Et donc je pense qu'il faut continuer, parce que c'est un mot qui s'est imposé. On disait gender history chez nous, on disait gender studies, on disait ça à l'anglaise. Et donc nous, enfin moi j'ai créé un séminaire en 2000 à Sorbonne, à Paris 1, pour imposer ce mot de genre, parce que faire du genre, c'était pas faire de la gender studies, c'était faire du genre à la française, d'une certaine manière. Et j'ai bien vu que voilà, ça a pris beaucoup. Entre 2000 et 2012, ce mot-là est devenu quelque chose de très important. Et puis depuis 2013, on l'utilise de moins en moins. Et je pense que c'est un mot qui est très important, parce qu'il faut faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre le sexe biologique et le sexe social, qu'on appelle le genre. C'est-à-dire que, et parfois, évidemment, les deux ne correspondent pas. Et il faut que, une bonne fois pour toutes, les gens acceptent qu'il y a un sexe et il y a un genre.
Voilà. Je pourrais dire, moi qui suis, j'ai une formation d'historien d'art, et donc, vu ma génération, j'ai fait l'histoire sociale de l'art, et pas en France, en Suisse, avec un très grand professeur italien qui s'appelait Enrico Castelnuovo, qui était un élève de Longhi. Et donc, on lisait tout ce qui existait en histoire sociale de l'art, et il n'y avait jamais aucune allusion au genre. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des choses très fines sur, par exemple, les goûts à Florence au XIIIe et XIVe siècle, en fonction des sous-classes sociales, enfin des classes sociales divisées en plusieurs couches. Et jamais je n'ai vu aucune allusion à la division homme-femme. Jamais, nulle part. C'était quelque chose qui n'existait pas. On va écouter un petit morceau de musique et après je vais donner la parole à mon autre invité. Rebonjour, nous sommes sur Allégre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et maintenant, je vais passer la parole à Thierry Roland pour son livre sur les manies des écrivains, sur leur passion. Enfin, c'est un livre qui justement est à l'inverse, n'est pas synthétique, mais au contraire pétillant, qui papillonne dans tous les sens. Bonjour, et de quoi s'agit-il ?
Bonjour et merci de m'avoir invité aussi, mais c'est difficile de parler après M. Hulette, tellement mon sujet est beaucoup plus léger. Il s'agit d'un voyage un peu sur les chemins de traverse de la littérature, chemin buissonnier, avec pour fil rouge les passions, les manies, les marottes de 13 écrivains. Alors j'ai toujours aimé entrer dans l'intimité des écrivains que j'admire, non pas pour un éclairage de l'œuvre, mais pour trouver des dynamiques, des lignes de force qui concourent à cette œuvre. Alors parmi ces dynamiques, eh bien, il y a les divertissements, les distractions, les dérivations, les passions. Donc. Alors le point de départ de ce livre, ça avait été quand j'étais tombé sur un portrait qu'avait fait Léon-Paul Fargue de son ami Valérie Larbeau. Ils ont passé des moments ensemble à Valbois, dans la propriété des Larbeau. Et Léon-Paul Fargue avait été très, très impressionné par la collection de soldats de plomb de Larbeau. Il faisait défiler des régiments devant lui. Et donc, ça l'avait beaucoup marqué. Donc, moi aussi, ça m'avait marqué de voir que cet homme, cet écrivain quand même que j'aime beaucoup, avait passé énormément de temps à collectionner les soldats de plomb. Alors, j'ai ensuite essayé de regarder dans une biographie ce qu'il en était vraiment. Et il avait réussi à mobiliser 10 000 soldats de plomb quand même, en y passant un temps considérable. C'est lui-même qui disait... Laissez-moi reprendre mon enfance où j'en étais. Je crois que ça caractérise bien la passion de Larbeau. Il avait une enfance jusqu'à 7-8 ans. Il avait une enfance assez heureuse et ensuite une adolescence très malheureuse et un début de jusqu'à sa majorité sous la férule d'une mère excessive, d'une tante aussi. Les soldats de plomb étaient un exutoire aussi. Pour Larbeau. Et ensuite, j'ai voulu savoir si d'autres écrivains avaient eu des passions communes, identiques à celles de Larbeau, sans aller dans cet excès quand même, parce que lui, il y a passé beaucoup de temps, comme il a passé beaucoup de temps à traduire, faire des traductions d'Ulysse, au détriment de sa propre écriture.
Oui, on lui doit James Joyce Italo Svevo.
Ah, bien sûr, c'est lui qui a fait découvrir Italo. Il a traduit Ulysse et il a fait connaître Italo Svevo en France. Donc j'ai voulu savoir si d'autres écrivains avaient nourri des passions identiques. Et bon, j'ai fait une enquête et j'ai découvert des petits trésors quand même. Parce que Colette, je vais décliner un petit peu les héros de ce livre. Il y a Colette, donc, qui a 20 ans, 20-30 ans, se passionne pour les sulfures. Les boules de cristal, les boules presse-papier.
Presse-papier.
Voilà, les presse-papier. Elle appelait ça des sulfures, bien que ce soit des boules presse-papier. Les sulfures, c'est quand la boule renferme un camé. Mais elle aimait bien ce terme de sulfure, bien sûr. Tout ce qui. Il y a cette dimension de soufre, là. Et sa vie est un peu aussi à l'image de cela. Donc, c'est l'époque où elle s'émancipe un peu de son premier mari. Et donc, elle a une quête très, très ludique, très, très enfantine.
Ça marcherait pour le genre aussi, puisque
oui, voilà, c'est ça.
C'est quasiment son proxénète au niveau de l'écriture.
Ah, exactement, sa plume, son œuvre, comme on dit, hein, pour les Claudines. Et là, elle s'émancipe complètement et elle se libère aussi sexuellement. Elle a des amitiés, des amours enfants féminines. Et donc, la quête des presse-papiers accompagne cette émancipation, cette libération. Et, bon, et puis, c'est vrai que ces boules de presse-papiers sont magnifiques. Et c'est un peu la quintessence, la métaphore de ces passions elles-mêmes, les animaux, les fleurs... les maîtres verriers, les incrustations qu'ont pu mettre les maîtres verriers dans ces boules de cristal sont magnifiques et c'est la nature en boule. Donc, mais alors elle n'était pas une collectionneuse compulsive, c'est plutôt une dilettante. Le sérieux, elle le réservait à l'écriture. Mais elle a réussi à acquérir une collection très, très, très belle que les cristalliers venaient visiter dans son appartement du Palais Royal. Et elle a donné, à la fin de sa vie, l'envie à un écrivain américain, Truman Capote, de faire une collection identique.
On pourrait raconter tout le livre, on pourrait le lire et on n'aurait même pas besoin de... On n'a pas besoin de notes, là, on connaît tout, bizarrement. Oui. Mais donc, Capote admire une des boules et elle lui offre.
Oui,
et
voilà.
Donc, c'est ça la citation que j'ai réécrite.
Ah, oui.
Genre, elle dit, j'y tiens énormément, ça ne sert à rien d'offrir quelque chose si on n'y tient pas énormément. Et donc... c'est là qu'elle n'est pas une collectionneuse compulsive.
Non, c'est
quel est le collectionneur qui va donner quelque chose de sa collection à un visiteur qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas, à moins qu'il ait été introduit par une tierce personne.
Par Cocteau aussi.
Hein, alors donc elle sait qui c'est.
Oui, elle sait
c'est qui c'est.
Enfin,
c'est
un très jeune écrivain, hein, ouais. Donc elle sait qui c'est, mais...
Mais là, en vous entendant parler, par exemple, j'ai mille anecdotes qui fusent dans ma tête, dans tous les sens, sur des traits genre... Le slogan de Stendhal.
Me foutre de tout, ouais, me foutre MFT, carrément de tout.
MFT, ou Loti qui se déguise et qui finit tout nu pour se déguiser.
Absolument.
En romain.
Voilà.
On est de nouveau dans la même problématique.
En tenue d'Adam.
En tenue d'Adam,
voilà.
C'est excellent.
Voilà, c'est ça. Oui. Donc,
on a Nabokov qui fait le lien.
Oui.
Au niveau des médias, disons, comme aujourd'hui, là, pour Nabokov, pour Blanquer, en page 1, en couverture du Figaro magazine, ça serait bien.
Oui.
Et lui, c'est les papillons. C'est un chasseur de papillons.
Ah oui, c'est un chasseur
avec
de
Nabokov,
papillons.
Avec Nabokov, on revient sur... avec Lolita.
Oui, exactement. Exactement. Il y a l'affaire Lolita, bien sûr. Mais, bon, outre un grand collectionneur aussi, c'est Éluard. Ça, c'est très intéressant quand même, parce que... il commence une... Bon, les surréalistes aiment bien les cartes postales. Dans la filiation des dadaïstes, la carte postale est un objet pour lequel ils ont une grande attention. Mais le plus grand cartophile surréaliste, c'est Éluard. Pendant 3-4 ans, lui aussi, là, il recherche constamment des cartes postales. Dans ses voyages, il passe des heures entières dans les merceries, dans les boutiques spécialisées pour trouver des cartes postales. Et il en réunit 5000 quand même, plus de 5000. Là, c'est... Bon, ce qu'il en fait est plus important encore, puisqu'il en fait des albums et il les orchestre, il les met en scène. Il ne les accumule pas, hein, comme beaucoup de collectionneurs aujourd'hui. Lui, il les met en scène, et avec énormément de femmes, bien sûr, parce que sur les 5000 cartes postales qu'il a récoltées, il y a environ 3000 femmes. Et le moment où il fait sa collection de cartes postales, c'est le moment où il perd sa muse, Gala. Donc, il est désemparé et il va y avoir un papillonnage sexuel aussi là.
Très intense.
Très intense.
Avec Picasso, par exemple. Un
papillonnage sexuel qui est le pendant des conquêtes de cartes postales, jusqu'à ce qu'il rencontre Maria Benz, Nouche, qu'il va épouser. Et là, sa passion va diminuer parce qu'il aura trouvé la femme. Il passera d'un horizon de toutes les femmes à l'horizon d'une seule, qui sera Nouche. Mais il faut savoir que Nouche, en Allemagne, quand elle était jeune, elle a posé pour des cartes postales. Donc ça, c'est une anecdote assez intéressante.
Il va prêter Nouche à Picasso. Et donc c'est vraiment... parce qu'il va lui donner aussi un album de cartes postales.
Oui, oui, oui.
Et à l'instant, je pense à quelque chose qui n'est pas dans votre livre, mais qui aurait pu y être. C'est le goût... C'est Brassai qui photographie des graffitis. Et
oui.
Le goût que Picasso avait pour ses graffitis. On a parlé des deux en attendant Darbrut, là.
Oui, oui, exactement.
Et donc cette dimension aussi, de, par exemple, de collectionner les graffitis en 1943,
oui.
C'est une idée géniale. Oui. C'est extraordinaire.
Oui. Oui, tout à fait, oui, oui. Henri Calais fera aussi un livre sur les graffitis des prisonniers de Fresnes pendant la guerre. C'est très beau aussi, c'est très émouvant, bien sûr.
Ben vous me l'apprenez, je ne le savais pas.
Ouais. Henri Calais. Éluard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Zweig, bien sûr.
Les papillons de Nabokov.
Les papillons de Nabokov.
Il y a quelque chose dans ce goût pour la classification savante qui se retrouve dans sa littérature.
Un taxonomiste.
Oui. Et il va même enseigner autour de ça.
Oui,
ça prend une place énorme dans sa vie.
Il enseigne pendant 5 ou 6 ans. C'est un chercheur.
Qu'est-ce qu'il enseigne? Comment ça s'appelle ce qu'il fait quand il enseigne à propos des papillons? Zoologie, de quelque chose.
Je ne sais plus exactement.
Mais c'est sérieux, c'est une passion très, très sérieuse.
Oui, c'est très sérieux. Oui.
Alors il y a le côté très émouvant, hein, c'est les cigarettes pour De Vevo. C'est un autre monsieur Blum.
Oui, là c'est.
Le vouloir arrêter de fumer comme collection.
Voilà, c'est ça, c'est la manie de la dernière cigarette. Une dernière cigarette qui n'aura même pas le bonheur de fumer, puisqu'il. Il a un accident de voiture et donc il est hospitalisé. Il a des problèmes pulmonaires. Il demande une cigarette quand même. Il n'y avait pas cet interdit à l'époque. Et on lui refuse, bien sûr. Donc il n'aura jamais eu le bonheur de fumer cette dernière cigarette.
Et je pensais à propos de viol d'enfant tout à l'heure à la femme de 30 ans de Balzac qui prend une position très forte sur le. Enfin, elle se fait violer par son mari, elle refuse d'avoir des rapports sexuels. Enfin, c'est très très mal écrit, mais. Et donc on a l'inverse, l'opposé à Balzac qui est Stendhal. Et Stendhal et ses pseudonymes, c'est extraordinaire, c'est parce qu'il ne veut pas se fixer, parce qu'il ne veut pas scléroser. Où Balzac voulait monter une petite entreprise et ça ne marche jamais, Stendhal, il veut être une fusée, quelque chose de très fluide.
C'est ça. Il se méfie de l'identité, donc il passe par l'altérité, lui. Mais l'altérité, c'est 350 pseudonymes. À chaque lettre qu'il écrit, un pseudonyme différent. Toute une panoplie de pseudonymes qui naissent là, à la fin de ses lettres. Et c'est aussi une manière pour lui de lutter contre la prédestination. Prédestination d'une naissance, d'un milieu bourgeois boutiquier.
D'une ville.
D'une ville, Grenoble.
Qu'il
aborait.
Oui, hein. Parce qu'il porte un nom de ville, mais d'une ville allemande.
Voilà.
Ce qui est quand même.
Exactement.
Très violent, en fait, par rapport à la France.
Il adorait Bordeaux, mais il laborait Grenoble.
Alors, violemment, oui.
Après aussi, c'est un jeu, c'est un divertissement, c'est un défi au langage aussi.
Mais il est très fort sur ces choses. Son testament, là, par exemple, c'est une chose extraordinaire.
Oui, c'est formidable.
Être immortel, sauf pendant 5 minutes, enfin, des choses.
Oui, c'est
fabuleux.
Oui, c'est fabuleux, oui.
Mais il n'est pas l'homme du développement, justement.
Non, pas du tout.
C'est un écrivain au niveau du paragraphe, quoi. C'est,
Et il donne aussi beaucoup de surnoms à ses proches.
Il invente la cristallisation, qui pourrait être pour vous un très bon concept.
Le rameau de Salzbourg, bien sûr.
Oui, il marche au bord du lac Léman et brusquement, il a une illumination. C'est du cristal.
Oui.
Et donc, on est dans ces...
Oui, ça cristallise.
Ces choses, tout devient à facettes, tout prend une profondeur, tout prend une autre lumière. C'est magnifique.
Oui, c'est magnifique. Oui, oui Stendhal... il se sert de ses pseudonymes pour vivre.
En fait, votre livre amorce... Je savais que je voulais dire quelque chose. C'est Léoto. Quand on lit les 40 volumes du journal de Léoto, on est dans la littérature. On peut avoir des réserves sur certains côtés, pourquoi. Mais on est dans la littérature. Et lui, il a traqué toute sa vie les pseudonymes de Stendhal. C'était sa grande passion. Donc vous auriez pu faire un article entier sur Léoto traquant les pseudonymes de Stendhal.
Parce qu'il avait une passion pour Stendhal. Et donc cette passion est portée sur les pseudonymes. C'est lui qui en fait quand même la liste, qui augmente la liste. Il y avait une liste initiale. Léoto augmente cette liste qui elle-même sera augmentée par Martineau, un autre grand Stendhalien. Donc il y a toute une chaîne là
Léoto, il est à 160 pseudonymes.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc aussi Léoto, c'est un sacerdoce, il sacralise Stendhal.
Ah oui,
et quand il découvre que Stendhal a écrit 3 brouillons pour sa lettre à Balzac, alors, parce que Stendhal a écrit une lettre à Balzac dans sa vie, alors qu'il est le théoricien du premier jet. Et qu'il a quand même dicté en face de la Bibliothèque nationale non-stop pendant 3 semaines le rouge.
La Chartreuse de Parme.
C'est formidable.
Ouais.
Et donc, Léoto est très, très déçu quand il voit qu'il a fait 3 brouillons à sa lettre à Stendhal. Ça lui brise le cœur. À Balzac. Ça lui brise le cœur.
Et Balzac répondra sur la Chartreuse de Parme, la fameuse. Fameuse lettre de Balzac qui fait 72 pages. Quand même.
C'est génial.
C'est formidable. Cette consécration d'un...
Donc votre livre est un livre pour les fétichistes comme nous qui aimons beaucoup la littérature.
Voilà,
c'est un livre de fétichistes.
C'est ça, c'est un livre de fétichistes. Vous avez excellemment résumé ce livre.
Et je ne sais pas pourquoi, mais on a parlé de l'Église. Je vois, moi qui étais dans une institution catholique, petit, mais très petit, à 4 ans, dans un après-guerre, donc dans une espèce d'internat pour les orphelins, je me souviens des chasubles, on avait la messe tous les matins. Et ça tapait la couleur, quoi. Les couleurs étaient différentes et c'était très chargé en symboles. C'est la messe était en latin, donc c'était vraiment très, très étrange. C'était une petite messe qui durait une demi-heure.
Il y a aussi un personnage dans le livre qui est intéressant, c'est Jarry avec son vélo, quand même.
Bien sûr. Mais ils sont tous intéressants. Zola avec son appareil photo,
Zola.
C'est quand même fondamental
Zola.
Aussi.
Oui, parce que Zola...
Mais Jarry est magnifique. Si vous voulez parler de Jarry...
Je peux parler de Zola 2 secondes. Zola, qui était très prévenu contre la photographie. Il voyait que la photographie n'était pas capable de donner une vision sensible du monde. C'était une reproduction mécanique et plate de la réalité.
Comme Baudelaire, quoi.
Exactement comme Baudelaire. Et puis, tout d'un coup, en 1888, il est à Royan. Il est initié à la chambre par Victor Bayot, un gazetier de Royan. Et là, ça prend, la passion prend. Et bien sûr, il y a en coulisses, il y a son amour pour Jeanne Roseraud, la lingère
et ses deux
de sa
enfants.
Femme. Et je pense que là... La passion de la photographie est aussi à l'égal de sa passion pour Jeanne Roseau. Donc il y a là une...
Donc dans votre livre, on a l'affaire Dreyfus, parce qu'il s'exile, mais il a la chance de s'exiler avec sa maîtresse et ses deux enfants.
Voilà,
et il la photographie tout le temps.
Voilà, il a trois chambres de développement dans chacun de ses logements, et un chez Jeanne Roseau aussi. Et il fait des albums, lui qui n'a pas pu avoir d'enfant avec sa femme. Donc ça substitue cette famille et il en fait beaucoup de photos tout au long de la fin de sa vie. Bon, pour revenir à Jarry, oui, c'est l'homme vélo de la littérature, c'est lui qui cycle. Il a une passion.
Le prolongement du squelette de façon mécanique.
C'est un exosquelette,
le vélo.
Un exosquelette, oui. Il passe sa jeunesse, il est sur les fonds baptismaux du cyclisme. C'est les premières grandes épreuves cyclistes, 1891, Paris-Brest-Paris. C'est l'aîné où il arrive au lycée Henri IV. Il dessine des vélos sur son cahier en écoutant les cours de Bergson. Et tout de suite, la pratique de vélo lui donne une aura. Et puis il va s'en servir aussi. C'est une carapace, une armure.
Je parlais des signes de chasuble et des choses comme ça. Donc il y a aussi les enterrements.
Oui,
c'était très marqué. Donc on avait le brassard noir. Ouais. Enfin, on avait beaucoup de signes extérieurs. Les Dada d'ailleurs font un enterrement génial en film. Et j'arrive, je suis un enterrement à vélo avec une grosse cloche de vache sur son vélo.
C'est l'enterrement de Mallarmé.
Ah, en plus,
c'est parfait. Et il est l'objet de l'opprobre. Parce que...
Et là, on est dans le surfétichisme.
Oui,
on est dans la yole de Mallarmé.
Voilà. Parce que Jarry ne quittait jamais sa tenue de vélo, finalement. Hein, il faisait à croire qu'il ne quittait jamais la salle de son vélo non plus.
On pourrait faire un jeu télévisé ou radiophonique en partant de votre livre.
Oui.
Parce qu'il y a le canot de Maupassant.
Oui,
et donc, on pourrait prendre un nom au hasard trouver sa passion, prendre une passion au hasard et trouver l'écrivain qui va avec.
C'est vrai que j'aurais pu prendre Maupassant, hein, parce que Maupassant passait des nuits à canoter, et donc il quittait son emploi malheureux de fonctionnaire au ministère de la Marine
pour aller canoter.
Pour retrouver son canoë.
Et alors, comment vous avez. Que pensez-vous du viol d'enfant au Moyen-Âge, l'exposé auquel vous venez d'assister?
Écoutez, je voulais savoir quelles étaient la répression qu'il pouvait y avoir. Vous avez parlé que l'Église était très bienveillante. Mais les juges, comment étaient jugés ces crimes?
De manière assez... Ce que j'ai dit un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une grosse différence entre les garçons et les filles. C'est-à-dire qu'on voit bien que je crois 80% des pédocriminels de garçons vont à la peine capitale. Enfin, c'est la peine capitale qui est prononcée et appliquée parfois lorsqu'on peut retrouver les gens, mais c'est la peine capitale. La peine capitale, c'est pas quelque chose qui est très appliqué au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on a l'impression que le Moyen-Âge, c'est torture, peine de mort, etc. Bon, aujourd'hui, les travaux de Claude Gauvard, par exemple, ont montré que la peine capitale était quelque chose de relativement peu utilisé, mais bon, utilisé dans des cas très graves. Et donc, on voit bien que, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Oui. J'avais aussi une question. Alors, parce que je trouve ça, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est finalement, enfin moi je trouve, c'est ça m'avait fait penser à l'ouvrage de Bernard Lahire sur l'homme pluriel, c'est-à-dire que on voit bien que finalement chaque écrivain, à la fois, bon, passe un temps extraordinaire à écrire parce que c'est quand même leur, il n'y a pas de secret, je veux dire, ils alignent les heures et par ailleurs, ayant des hobbies, enfin ayant des divertissements, des manies. Qui parfois peuvent paraître complètement
chronophages.
Oui, chronophages et puis déconnectés de leur voilà. Donc on voit bien des gens qui finalement ont des passions très 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 diverses.
Oui.
Et ça m'a fait penser quand vous avez parlé des soldats de plomb de l'Arpo. Moi j'ai pensé à Jules Vallès parce que vous parliez de l'enfance, des rapports effectivement de l'Arpo avec sa mère, etc. Mais finalement. Chez Vallès, alors je ne connais pas suffisamment l'œuvre de Vallès pour savoir s'il avait des hobbies ou s'il avait des divertissements, mais en tout cas ça débouche quand même chez lui sur cette enfance extrêmement malheureuse, enfin en tout cas la mère excessive, etc. Ça ne débouche pas sur les soldats de plomb, là pour le coup ça débouche sur des révoltes, sur une haine, une révolte du bourgeois, enfin etc.
Oui,
et je trouve intéressant de voir que finalement voilà, on a des itinéraires parfois communs d'artistes, et ça peut déboucher sur des choses complètement, complètement différentes. Et puis surtout, oui, ce qui m'intéresse, c'est le contraste. Moi, je pensais à des amis très intellectuels qui font des collections, par exemple, aujourd'hui, de boules à neige, par exemple. Ce qui peut paraître... Voilà, donc on arrive chez... Ou des cochons, voilà. On arrive chez eux, il y a 100, 150 boules à neige ou 200... Bon, et on se dit... Ah bon, ça c'est eux qui ont ce hobby. Il y a une sorte de voilà de on est parfois peut-être parce qu'il faut qu'on fasse l'effort. Mais
et on a André Chastel, je parlais d'historien d'art, qui est l'historien de référence en France pendant 50 ans, avait des vaches vivantes et c'était sa grande passion. Il élevait des vaches dans les Pyrénées et c'était sa passion et c'était un collectionneur de vaches. Donc c'était des vaches très typées qui venaient d'endroits différents et donc on a. On l'a passé il n'y a pas longtemps, genre 3 heures ou 4 heures avec lui sur France Culture, mais une émission des années 70. Mmh. Et il les emmène voir les vaches et tout ça. Et il y a un grand... Ça aurait fait un chapitre sur les vaches. Et elles portent des noms. Enfin, elles ont des races. Et c'est important. Et on sent que c'est l'histoire de sa vie. Quoi. Quand il est ici aux hautes études, et il pense à ses Pyrénées et qu'il veut y retourner voir ses vaches. Et j'espère qu'elles vont bien. Et
tout. Oui, c'est extraordinaire.
Extraordinaire.
Oui, puis bon, chez Larbaud, il y a aussi le syndrome napoléonien, un petit peu. Ouais. Hein, ouais. Donc, gouverner aussi. Mais là, il ne gouverne pas des hommes qui vont se battre. Il gouverne des petits
grenières en plomb.
Des petits grenières en plomb. C'est beaucoup plus pacifiste.
Et il était riche aussi. Donc, moi, je ne sais pas, je vois comme un contraste entre ces riches héritiers et ces soldats de plomb. Ça colle pas ensemble, mais c'est parce que comme j'ai pas eu l'occasion d'être riche, je modifie un petit peu la richesse. On peut imaginer par exemple, je parlais d'un jeu, un petit chemin de fer, la miniature, puis on cherche l'écrivain qui avait une collection de chemins de fer miniatures. Je suis sûr qu'on va le trouver.
Sans doute.
Ouais. Mais voilà, donc c'était. Il se passe des choses quand même, c'est encore bien. On fait des livres qui sont intéressants sur des sujets intéressants et ça bouge, ça change.
Et là, je voulais vous poser une question sur la représentation sociale de ces forfaits. Oui. Comment étaient perçus
Je pense que là, c'est je pense qu'on a assez peu. Par exemple, il y a pratiquement rien dans les images, par exemple. Jamais on représenterait ce genre de scène dans les images, par exemple, dans les enluminures, dans les tableaux, etc. Donc je pense qu'il y a une sorte de tabou, hein, de tabou de la représentation. Donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question, parce que je pense qu'on a du mal à se rendre compte de la manière dont les gens se représentaient ça. C'est-à-dire qu'on a juste, évidemment, des cas, c'est pris par la justice, mais c'est vrai que on aimerait bien avoir une autre documentation qui nous permette de savoir ce que ça représentait pour les gens. Je pense que de toute façon, je pense au film par exemple qui s'appelle Le Dernier Duel, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, qui est un très beau film sur un viol au Moyen-Âge. Hein, c'est un cas connu, on est en 1386 sous Charles VI en France, et on voit bien que dans ce film, il y a une femme qui dit « mais il ne faut pas porter plainte quand on se fait violer, parce que finalement, mais toutes les femmes se font violer. Voilà. » Alors, c'est peut-être exagéré, mais globalement, on est dans une société de domination masculine absolument terrible. Et donc, il y a une sorte d'acceptation aussi qui peut, aujourd'hui, nous, évidemment, 6 siècles ou 7 siècles après, nous apparaître complètement insupportable.
Mais peut-être que ça va ce qui va être dit sur aujourd'hui. C'est une question de sensibilité.
Bien sûr.
Et la Renaissance revalorise l'homosexualité avec ses modèles antiques.
Tout à fait.
Donc
tout
on a un basculement.
Alors l'homosexualité et aussi, je dirais, la pédérastie, parce que j'ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que, voilà, je dirais, entre homosexualité et pédocriminalité, je dirais entre, c'est un peu compliqué de dire ça, puisque je les ai tellement séparés que j'ai du mal à dire entre, mais il y a la pédérastie. Et c'est vrai que c'est souvent été un argument, par exemple, on sait très bien, dans les années 70, lorsque, bon, je pense à Vazneff et le fameux, comment, 1977, hein, le fameux, comment, la lettre ouverte dans Le Monde et dans Libé, hein, qui paraît en 77, où ils défendent la pédophilie, hein, en disant, finalement, la sexualité, au nom de finalement, abat la morale, au nom de la sexualité enfantine.
C'est Tony Duvert aussi.
Oui, tout à fait.
Et voilà. Puis le frangin de Romère, là.
Oui, bien sûr. Ah, oui. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là. Ouais. Et c'est vrai qu'une des défenses, enfin, une des moyens intellectuels de défendre cette pédophilie, c'est de dire, mais oui, mais les Grecs, autorisaient, etc. Ils n'autorisaient pas la pédophilie, les Grecs. Hein. On est dans un système de pédérastie qui est quand même relativement différent. C'est-à-dire que d'abord, toute la société n'est pas touchée chez les Grecs par ça. Et puis surtout, ça fait partie d'une sorte d'éducation. En fait, hein, l'éducation d'un homme adulte avec un adolescent ou un jeune adulte. Mais on est dans autre chose que de la pédophilie. Hein.
Oui, mais on a André Gide, par exemple.
Bien sûr, mais Roland Barthes, on pense à Roland Barthes, qui d'ailleurs signe.
Mais Gide, c'est des enfants.
Bien sûr.
Et il est choqué par Oscar Wilde, alors qu'Oscar Wilde, aujourd'hui, nous choquerait moins que Gide. Oui, donc on est dans un monde à l'envers. Barthes. Parce qu'il est choqué par la sodomie, en fait. Je parle d'Oscar Wilde.
Oui, oui, oui.
Donc on a, mais c'est des sujets extrêmement foisonnants.
Il y a un collectionneur aussi.
J'ai collectionné les enfants.
J'en ai pas parlé, bien sûr, dans le livre, mais c'est Pierre Louis qui collectionne des photos érotiques
formidable, génial,
de jeunes filles.
Ah oui.
il a une collection. D'ailleurs, cette collection...
Mais on n'a pas l'impression qu'elles étaient victimisées, mais bon, peut-être qu'on projette, on a l'impression que c'est très ludique.
Oui, oui, c'est très ludique. Et cette collection passera dans les mains de Michel Simon, autre grand hétéromane.
Mais je pense que cette pétition de 77, il y a quand même Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes qui la signe.
Il faut penser
à ça. Oui. Ce qui nous ramène à une époque, c'est à mon avis la seule période. Enfin, j'ai fait une préface là, pour un livre en italien qui paraît bientôt sur la pédocriminalité dans l'Église. Et je reprenais l'histoire finalement de la. Je pense que la pédocriminalité est vraiment condamnée à toutes les époques, sauf, il me semble qu'il y a vraiment une parenthèse, qui est cette parenthèse 70, 80, 90. Où vraiment on a des intellectuels qui
la French Theory avec Foucault.
Oui. Voilà, tout à fait.
Mais si je reprends l'exemple de Martel avec Sodoma, donc le rapport à l'Église, il y a quand même ce qui n'est pas dit dans ce discours sur ce moment de libération, c'est le moment répressif qui est avant. Ce qui n'est pas dit, c'est l'état des mœurs avant. Il faudrait historiciser ceci de façon extrêmement précise pour qu'on comprenne très bien que quand on soulève le couvercle, on le soulève avec un certain emportement,
bien entendu,
qui est un petit mouvement stendhalien, là, et que la liberté, après, ne se divise pas. La question, c'est est-ce que deux garçons peuvent coucher ensemble ? Puis on ne va pas commencer à discuter de l'âge des garçons. Et évidemment, les internats n'étaient pas mixtes, par exemple, dans mon enfance. C'est des choses...
Stendhal collectionnait, lui, les fiascos. c'est tout à fait différent.
Mais là aussi, on retrouve M. Blum, c'est quand même extraordinaire.
Oui,
c'est beau, la littérature. Parce que là, on est en train de parler d'un genre qui va disparaître ou qui a disparu. Livre ayant disparu, on essaye de défendre les livres.
Il est toujours là. Oui,
mais pour qui comment c'est...
Vous me lirez tant que la langue vivra, disait Flaubert.
Oui. Mais on peut imaginer, c'est le Truffaut, là, c'est Fahrenheit, on peut imaginer du Flaubert appris par cœur par des gens, ça s'y prêterait merveilleusement bien, et ce serait l'auteur idéal.
Salambo.
Et parce que Maxime Ducamp lui demande d'enlever les « et » au début, et donc il avait mis « et » E-T. Au début de toutes les phrases de Salambo. Donc il avait quand même une idée de scansion, il avait une idée d'oralité dans Salambo.
Oui. Ben, c'est le gueuloir aussi, l'oralité de Flaubert.
Ben, évidemment.
C'est le gueuloir.
Et là, c'est le centenaire de Flaubert. J'ai fait une très jolie émission sur tous les... Alors, il y a une dame qui a publié chez Honoré Champion tous les articles parus à la mort de Flaubert. Toutes catégories mélangées, donc... D'abord, c'est les simples comptes rendus, et après, Zola va écrire 40 pages, c'est le meilleur article. C'est pas le seul, il y en a d'autres, mais celui de Zola est absolument magistral, où il explique son désenchantement violent en ayant rencontré l'homme.
Ah oui,
il est idéalisé totalement, il va le voir, et c'est un vieux réac qui dit du mal du chemin de fer, qui est exactement le contraire de Zola.
Zola est un grand progressiste. D'ailleurs, la photographie, il achète... tout le temps, l'appareil photo
qui vient
de sortir. Hein, il est toujours en quête du dernier appareil photo.
Ça a passé très vite. Hein. Revenez quand vous voulez. Je crois qu'on est à la fin de l'émission. Nous étions à l'YFM 93.1. Dans La vie est un roman, j'étais avec Thierry Le Roland pour Les papillons de Nabokov, le boomerang de Grag, et avec Didier Led pour Viol d'enfant au Moyen-Âge. L'émission suivante est celle de Manouchka Toubiana à la croisée des chemins. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Joseph walked on and on the sunset, went down and down coldness. Cooled their desire and dawn said, let's build a fire. Like a king and dawn's neck. eyes and joy.